Le dossier de votre magazine Montpellier Méditerranée Métropole s'est voté. Le 17 juillet dernier, le principe de la saisine des conseils municipaux des communes de la communauté d'agglomération de Montpellier en vue du passage en métropole a été adopté. Trois mois après, les 31 conseils municipaux ont délibéré. Et le 24 octobre, les élus de l'agglomération ont voté pour Montpellier Méditerranée Métropole. Au 1er janvier 2015, donc, le territoire adoptera son nouveau statut, à l'instar de 11 autres grandes villes françaises. Cette évolution consentie permet au territoire d'avoir sa place sur une carte de France en mouvement et de se défendre dans la compétition pour l'emploi. Renforcée par de nouvelles compétences, Montpellier Méditerranée Métropole sera à la fois plus forte pour gérer des problèmes d'ampleur et assurer un service public de proximité plus efficace. Fondateur de cette nouvelle collectivité territoriale, les maires en seront les acteurs principaux, leur pouvoir sera préservé. C'est ensemble que la métropole a été choisie, c'est ensemble qu'elle sera construite.
Et ils ont dit oui à la métropole, conseillers municipaux, maires, conseillers d'agglomération. Les élus ont voté pour le passage de la communauté d'agglomération de Montpellier en métropole au 1er janvier 2015, la future Montpellier Méditerranée Métropole. Interview de Philippe Sorel, président de Montpellier Agglomération, ardent défenseur de ce changement de statut pour les 31 communes du territoire. Alors Philippe Sorel, pourquoi était-il si important de changer de statut ?
Prendre le statut de métropole était la seule alternative pour conforter Montpellier dans la grande région qui se dessine autour de la réforme territoriale, regroupant le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Nous devons être en capacité de faire entendre notre voix dans le futur paysage des collectivités. Par ailleurs, si nous n'avions pas choisi de devenir une métropole, nous aurions notamment subi des conséquences financières immédiates en perdant 7 millions d'euros chaque année de dotation globale de fonctionnement versée par l'État.
Et en êtes-vous pleinement satisfait ?
Oui, notre passage en métropole est non seulement une très belle victoire pour notre territoire, mais aussi un très bel exercice de démocratie. En effet, à travers le vote des conseils municipaux, le processus démocratique a dû s'exprimer pour rattraper ce que la loi ne nous a pas permis. Je rappelle que nous sommes la seule agglomération, avec Brest, à ne pas passer automatiquement en métropole au 12 coups de minuit le 31 décembre prochain, comme le feront en revanche la communauté urbaine de Toulouse et d'autres grandes collectivités françaises qui n'ont pas eu à consulter les maires de leurs communes membres. La règle imposée par la loi est finalement beaucoup plus citoyenne et en accord avec le mode de gouvernance que j'ai mis en place dès mon élection à la tête de l'agglomération en avril dernier.
Alors qu'est-ce qui va changer au 1er janvier 2015 ?
Nous serons dotés par la loi de nouvelles compétences. La métropole devient par exemple l'autorité organisatrice de la mobilité en général, avec en plus des transports urbains dont elle s'occupe déjà, la création, l'aménagement et l'entretien de l'ensemble des voiries et espaces publics. Elle est également plus puissante en matière d'économie, qu'elle soit touristique, entrepreneuriale, artisanale ou commerciale, et devient un partenaire important de l'enseignement supérieur et de la recherche. En étant au deux bouts de la chaîne de la création d'emplois, elle sera en capacité de mener des actions plus efficaces pour notre économie locale. La métropole est également l'autorité en matière de planification urbaine pour que le plan local d'urbanisme intercommunal créé par la loi Allure du 24 mars 2014 ne soit pas une addition des PLU des 31 communes, mais une prise en compte globale du territoire à l'échelle des communautés voisines. La métropole est une alliance entre la stratégie tournée vers l'avenir et la proximité avec les citoyens, avec en fil rouge une valeur fondamentale écrite noir sur blanc, celle du respect de la légitimité des maires et de la préservation de leur pouvoir d'agir sur les équipements de proximité. Depuis des mois, nous travaillons ensemble sur ce projet de métropole. C'est un travail de longue haleine. Les élus, les directeurs des communes s'investissent aux côtés des services de l'agglomération et mènent de nombreux chantiers comme le pacte de confiance ou la relation aux usagers pour affirmer les principes fondateurs de la métropole.
Alors justement, qu'est-ce que le pacte de confiance ?
L'adoption d'un pacte de confiance métropolitain n'est en rien anecdotique. Il est le socle de la coopération intercommunale et du respect de la souveraineté des maires tout au long de mon mandat. C'est un gage de réussite. Son principe central est la recherche permanente du consensus. En plus des instances réglementaires, toutes les semaines nous réunissons par exemple une conférence des maires où sont définies les grandes orientations. C'est l'instance d'arbitrage politique majeure de la métropole avec une règle simple. Chaque maire représente une voix, quelle que soit la taille de la commune. Ce pacte n'est pas dicté par la loi, c'est une volonté des 31 maires et il n'a aujourd'hui qu'une valeur de charte politique. Mais je tiens à ce que cet acte fort soit scellé entre nous.
Et comment envisagez-vous la relation avec les usagers ?
Certains craignent que la métropole éloigne les décisions des citoyens. C'est faux. Nous construisons une métropole de proximité. Les communes resteront le premier maillon de la relation aux habitants, y compris pour les compétences métropolitaines. En 2016, les mairies assureront les missions d'accueil, d'information et d'orientation l'expérimentation des usagers précédemment assurés par les maisons d'agglomération et seront équipés d'un dispositif informatisé de gestion des demandes. Dans les 31 mairies, un guichet unique répondra à toutes leurs questions de compétences communales ou métropolitaines. Par exemple, une mère de famille pourra se rendre à la mairie de la Vérune pour connaître la disponibilité de places en crèche à Montpellier. Un jeune entrepreneur pourra se renseigner à la mairie de Castries sur les aides de la métropole en matière de création d'entreprise, ou encore un lycéen qui pourra renouveler son abonnement de transport à latte. C'est l'assurance d'un service public plus efficace et plus proche des habitants.
La métropole vient juste d'être votée, alors pourquoi déjà vouloir créer un pôle métropolitain ?
Ce n'est pas un échelon administratif de plus, c'est une instance politique de projet regroupant des intercommunalités voisines pour favoriser les partenariats entre elles. Il faut aller au-delà de nos territoires, s'affranchir des limites géographiques pour rechercher de la cohérence et de l'efficacité dans nos projets, notamment autour des 5 piliers de la métropole que sont la santé, le numérique, le tourisme, la mobilité et les sciences de la vie. Nous avons besoin d'harmoniser nos politiques publiques, d'autant plus en cette période de difficultés financières qui touche toutes les collectivités. À cet effet, j'ai rencontré ces derniers mois tous les présidents et présidentes de communautés d'agglomération et de communautés de communes voisines, soit près de 600 communes. Ils sont pour la plupart ouverts et intéressés par ce partenariat. Comme moi, il place l'intérêt des territoires au-dessus des conceptions partisanes et politiques. Nous devrions réussir à nous entendre avant l'été pour former un pôle métropolitain d'environ 1 million d'habitants qui aurait du poids face à Toulouse dans la future grande région.
Les fondations de Montpellier Méditerranée Métropole. Au service des 31 communes, Montpellier Méditerranée Métropole se dote dès le 1er janvier 2015 de nombreuses compétences nouvelles. Zoom sur ces divers champs d'action qui touchent le quotidien des 430 000 habitants du territoire. Pendant 3 mois, les conseils municipaux de la communauté d'agglomération de Montpellier ont délibéré. Ils se sont prononcés à une large majorité pour la métropole. Fort de ce résultat, les 31 maires et conseillers d'agglomération ont sollicité le préfet de l'Hérault lors du conseil extraordinaire du 24 octobre. Objectif, l'obtention du statut de métropole, comme le prévoit la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 28 janvier 2014. Un établissement public de coopération intercommunale qu'ils ont collectivement choisi à l'unanimité de baptiser Montpellier Méditerranée Métropole. Au 1er janvier 2015, Montpellier Méditerranée Métropole fera partie des 12 métropoles françaises. Elle sera dotée des compétences actuelles de l'agglomération et de compétences complémentaires définies par la loi. L'année 2015 sera une année transitoire pour la construction de la métropole. Certaines compétences resteront dans un premier temps déléguées aux communes, comme la voirie, et la mise à disposition des moyens humains et matériels se fera par étapes.
Sur cette page, une carte avec les 12 métropoles françaises au 1er janvier 2015, de la plus grande, Lyon, 1 300 000 habitants, à la plus petite, Brest, et ses 214 000 habitants, en passant donc par Montpellier Métropole, 430 000 habitants. À noter également que 2 nouvelles métropoles arriveront au 1er janvier 2016, celle du Grand Paris, 6 500 000 habitants, et celle d'Aix-Marseille-Provence, 1 100 000 habitants. Le tourisme, l'urbanisme et la voirie, voici 3 des nouvelles compétences de la métropole au 1er janvier 2015. Concernant le développement et l'aménagement économique, social et culturel, il y a la promotion du tourisme, le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche, les zones d'activité, les actions de développement économique, la participation au copilotage des pôles de compétitivité au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologies, et puis les équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain.
Aménagement de l'espace métropolitain. Le SCOT, le plan local d'urbanisme, la voirie et les espaces publics, les parcs et aires de stationnement, infrastructures et réseaux de télécommunications, opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, valorisation du patrimoine naturel et paysager, constitution de réserves foncières, organisation de la mobilité, PDU, participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares.
Politique locale de l'habitat, programme local de l'habitat, politique du logement, action en faveur du logement social et du logement en faveur des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, et puis aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
politique de la ville, élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville, animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale et des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
Gestion de services d'intérêt collectif avec l'assainissement et l'eau, le crématorium, les cimetières, les sites cinéraires d'intérêt métropolitain, les abattoirs et marchés d'intérêt national, services d'incendie et de secours et puis services publics de défense extérieure contre l'incendie.
Protection et mise en valeur de l'environnement politique du cadre de vie. La gestion des déchets ménagers et assimilés, la lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores, contribution à la transition énergétique, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, concession de la distribution publique d'électricité et de gaz, réseau de chaleur ou de froid urbain, infrastructure de charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, enfin autorité concessionnaire de l'État pour les plages.